Comme on le fait fréquemment, on va discuter avec le conseiller financier Frédéric Turcotte. Comment ça va, Frédéric?
Salut Pierre, ça va très bien, merci.
Écoute, ça ne lâche pas. On pense que tout va s'écrouler et non, Jérôme Powell arrive et il nous remet ça dans le verre. On va se croiser les doigts là parce que ça se peut que ça beaucoup de volatilité, beaucoup de nervosité, mais il y a du bon. Là, je vois Tesla qui... Elon Musk, c'est pas compliqué, là. Il va en Chine et il prend des photos, puis tout le monde est content.
Oui, bien, écoute, c'est une simplification un peu de ce qu'il a fait, mais dans les faits, tu as raison. Écoute, tu sais qu'on en a parlé depuis 2 ans à peu près qu'on parle ensemble, et puis on en a parlé beaucoup de Tesla, et c'est un titre à conviction pour moi. Je continue à avoir beaucoup de potentiel à long terme sur cette compagnie-là. Puis là, Musk a vraiment fait ce qu'un CEO de compagnie doit faire. Hein. Ça allait mal, les ventes d'automobiles électriques baissent, les producteurs comme Ford et tout ça perdent des 130 000 $ par voiture produite. Hein. C'est vraiment pas une période très, très positive pour les voitures électriques. Et donc, Tesla était touché par ça aussi. Et puis là, comme un peu Cramer a dit, il a sorti un lapin de son chapeau. Il y avait une intervention importante à faire. C'était les résultats le 23 avril dernier. Et oui. Il a vraiment rassuré le marché alors que, tout le secteur des véhicules électriques est chambardé. Alors, écoute, ce qu'il a fait, en fait, il a, puis ça, c'est aussi important dans la psychologie de l'investisseur, il a rassuré les investisseurs sur le long terme. Hein. Il a donné une vision aux analystes hein, qui pensent toujours Tesla comme une compagnie de voitures uniquement, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus qu'un fabricant automobile. Alors, il a donné une vision encore à des gens qui ont dit « Wow, on croit à ça, que oui, les revenus futurs vont être là. » Et c'est ça qui a fait que le stock a monté de 15 % à peu près dans une journée. Et puis, la deuxième chose qu'il a fait, puis on a fait mention, c'est qu'il a fait ce que peu de dirigeants de compagnie peuvent faire, c'est-à-dire prendre son avion et aller voir les dirigeants en Chine pour leur parler directement, les dirigeants oui. du pays, hein, pas n'importe quel.
Premier ministre, là. Oui, oui, c'est ça.
Oui,
là.
Alors, et faire des accords importants avec cette compagnie, avec la Chine. Puis, il faut se rappeler que Tesla a une usine en Chine qui n'est pas une usine d'État. Hein, il ne partage pas son pouvoir là-bas avec le gouvernement, comme c'est le cas de tous les joint ventures des compagnies européennes ou nord-américaines qui veulent s'établir en Chine. Donc, lui, il est vraiment seul avec son usine là-bas. Donc, il y a une relation vraiment privilégiée et c'est ce qui a fait en sorte que le marché a réagi très positivement. Donc, c'est ça les grands chefs d'entreprise, je pense qu'on peut, dire ça, qui réussissent à se projeter à l'avant, à rassurer les investisseurs quand c'est le temps. L'action de Tesla a perdu quelque chose comme 30 % depuis le début de l'année.
Et là, ça avec fait brasser solide, là, ouais.
C'est exactement. Ça. Alors là, en remettant en place la Chine, qui est le deuxième plus gros marché pour les véhicules électriques après les États-Unis, en faisant une entente avec Baidu pour avoir des cartes, parce qu'on sait que s'il veut, le but, c'est de mettre les voitures autonomes avec la conduite assistée en Chine. Mais pour ça, ça prend des cartes. Hein. Google ne fonctionne pas en Chine, donc il n'y a pas de carte de Google sur le territoire chinois. Donc, c'est Baidu qui a ça. Et donc, il a fait une entente avec Baidu pour dire, OK, on va intégrer les cartes de Baidu dans la technologie de Tesla. Et vous allez avoir le logiciel d'assistance automatique de conduite que j'ai utilisé d'ailleurs récemment aussi. Pour la première fois, je l'ai vu assis à côté de quelqu'un qui utilise. C'est assez impressionnant à voir. Enfin, la version 12 là, qui apprend avec des vidéos, on en a déjà parlé, toi oui. et moi. Donc, ça apprend avec des vidéos de conducteurs humains et ça montre, ça réagit donc comme un humain ça, à la conduite autonome. Donc, c'est vraiment ce qu'il a fait. Et c'est un moment charnière pour Musk et puis pour la compagnie. Et parce qu'il y a une pression quand même énorme en Chine aussi. Les voitures chinoises ne coûtent pas très cher. Il y a des gros producteurs là-bas de voitures électriques. Et là, on sent un ralentissement un peu partout parce que les voitures sont moins performantes, n'arrivent pas à donner la performance qui est souhaitée pour, entre autres, chez Ford, par exemple, chez Chrysler. Donc, les clients, les consommateurs en achètent moins. Alors, tout ça, ça se reflète dans les titres à la bourse qui et dans la consommation. Donc, de ces voitures électriques-là. Et autre chose que Tesla, qu'il a fait aussi, Musk, dans son annonce, en fait, c'était lors de l'appel. Hein, il y a toujours, les résultats sont présentés par le financier de l'entreprise et puis par la suite, le président, dans ce cas-ci, Musk fait son intervention. C'est vraiment dans l'appel qu'il a mis en place plusieurs choses intéressantes. Entre autres, il a dit que le 8 août prochain, on allait avoir le lancement de la voiture à rabais, la voiture, le modèle 2, comme on l'appelle. Il n'y a pas encore de nom. En fait, il y a peut-être un nom qui coule un peu. On pourrait, c'est le Cybercar, peut-être, qui ça serait le nom donné. Alors, ce ne serait pas un Cybertruck, ce serait un Cybercar. Donc, peut-être aussi une forme qui ressemble au Cybertruck. Donc, une voiture qui ne coûte vraiment pas très cher à l'achat. Parle de 25 000 et qui coûterait peut-être un 10 000, 15 000 à produire ultimement. Donc, les coûts de production vont baisser avec la production des plus grands volumes de voitures.
C'est important que tu amènes ça parce que Tesla, dans toutes les voitures électriques, c'est lui qui est le fabricant qui a le plus de marge bénéficiaire par voiture produite. Là. C'est quoi? C'est autour de... C'était 9 000.
Ça a baissé un peu là, dans les derniers. Mais
écoute, là, on voit des producteurs comme GM, comme Ford perdre 50, 60 000 $ même plus que ça par voiture produite, alors que lui, il fait entre 5 et 8 000 $ de profit net là, par voiture. Fait, ouais. Donc, leur modèle d'affaires est complètement en avant de tout le monde. Là.
Exactement. Alors, donc, il annonce aussi donc, le 8 qu'il va parler de cette voiture autonome là et du robot taxi. Donc, il y avait aussi question qu'il laissait tomber cette voiture autonome là au profit d'avoir des voitures, une flotte de robots taxi. Ce qui est important de penser, là, quand il y a une annonce qui est faite d'une technologie, là, lui, il le sait déjà, au moins 6 à 8 mois d'avance, quel est l'état de cette technologie-là qu'il va annoncer. Donc, ils ont toujours à peu près ça, un 6 ou 8 mois.
Oui, c'est ça, ils gardent une marge.
De réalité sur comment est rendue la conduite autonome avec Tesla. Et c'est ce qui va être annoncé le 8 août prochain avec la voiture. Donc, il sait déjà là, que ça s'en va positif, son affaire, et qu'il va peut-être faire un hit avec ça. Au mois d'août. Donc, c'est encore un stock donc intéressant à suivre, toutes sortes de péripéties. Mais cette fois-ci, vraiment, on a assisté. Les gens en management vont pouvoir dire là, un peu, ça va être il va être étudié, c'est certain. Elon Musk, il y a plusieurs livres d'ailleurs qui ont été écrits sur lui.
Oui.
Mais il y a sûrement plusieurs étudiants qui vont faire des thèses de maîtrise sur quelle gestion qu'il fait de sa compagnie ainsi que les autres. Comme tu sais, il y en a plusieurs autres.
Oui, puis j'ai regardé, il y a plein d'autres revenus là, qui peuvent venir. Les superchargers, là, on dit qu'en 2030, Tesla pourrait tirer quasiment 1 milliard de revenus, là, quelque chose comme ça, là, j'ai vu rapidement. Oui. Là. Donc, il y a plein de pipelines comme ça, là, de divisions
exactement,
qui vont être très rentables dans les prochaines années.
On a parlé des robots. On a parlé aussi de vendre son logiciel à l'utilisation à d'autres constructeurs automobiles. Et celui qui sort le plus souvent, c'est Ford. Ford aurait peut-être besoin, serait pas très loin d'une entente avec Tesla et aurait encore besoin peut-être de 3 ans avant d'être capable d'intégrer la technologie de caméra sur les voitures Tesla ou voitures Ford et utiliser le logiciel de Tesla. Donc, ça, c'est des revenus. C'est du code. En fait, il n'y a même plus de code dans le logiciel, presque pas. C'est juste de l'intelligence avec l'apprentissage par logiciel, par vidéo. Donc, toute cette technologie-là devrait être mise en place dans d'autres constructeurs automobiles et Ford serait peut-être le premier sur la liste.
À suivre, Nvidia, Amazon, l'info nuagique, centre de données. Ça va bien. Tu as vu les chiffres d'Amazon, là, c'est incroyable.
Oui, exactement. Alors, on peut se poser la question, pourquoi donc ça fonctionne si bien Amazon et que là, c'est aussi un des large caps qui n'a pas encore versé de dividendes, pas annoncé de...
Alors, je pense que ça s'en vient, là.
Oui, effectivement, les analystes pensaient que ça s'en venait lors de ces résultats-là de la semaine dernière et ça n'a pas été le cas. Mais bon, je pense aussi que ça va se faire un jour, peut-être un petit dividende, parce que ça, forcément, un dividende, on le sait que ça récompense les actionnaires. Hein, c'est un signal de santé financière. Pourquoi c'est important? Donc, ça fidélise les actionnaires puis ça incite aussi à acheter le stock. Donc, c'est vraiment important pour un stock comme Amazon.
Ouais.
Mais c'est pas là que je veux vraiment t'amener, c'est pourquoi donc c'est rentable cette compagnie-là? C'est la partie Amazon Service Web, Web Services qui a amené 25 milliards de revenus versus ce qui est attendu dans le marché, 24,5 milliards. Donc, c'est de l'argent énorme. Pourquoi les gens utilisent tellement les services d'Amazon et d'autres aussi, là, Microsoft, Google et tout ça, ils ont tous des services web d'info nuagique, de cloud. Alors, c'est vraiment parce que les données explosent partout et il faut mettre ces données-là sur des serveurs qui vont coûter beaucoup moins cher. Et c'est là que je t'amène Nvidia. Jensen Huang, le président de Nvidia, a fait une conférence à Stanford, en Californie, récemment sur son université. Où il a étudié, ou presque il a fondé Nvidia il y a 20, plus que 20 ans, je pense, maintenant. Et il a dit expliquant encore une fois que l'important, pourquoi Nvidia réussit tellement à mettre cette connaissance-là sur des serveurs et sur des microprocesseurs, qu'ils produisent. Et c'est quelque chose qui n'était absolument pas pensable avant. Hein. C'était penser qu'on pouvait ramasser toute la connaissance d'Internet et toute la connaissance de l'humanité, puis mettre ça dans un ordinateur, c'était impossible à penser tant qu'on ne réduit pas le coût à zéro ou presque. Et c'est ce que Nvidia a fait. Ils ont baissé le coût par 1 million de fois. Donc, ce qui coûtait 1 million avant, mais coûte maintenant presque zéro pour conserver et puis être capable d'utiliser ces données-là dans des serveurs. En fait, ce sont des salles de serveurs. C'est pas seulement un serveur.
Des centres de données, là.
Ouais, centres de données, exactement. Alors, leur nouveau processeur, on en avait parlé il y a une quinzaine de jours, je pense.
Blackwell, bon, c'est ça?
Blackwell, exactement. Donc, c'est pas juste une chip. Hein. C'est vraiment une grosse patente qui pèse 35 kilos, à peu près. Il y a 35 000 pièces là-dedans. C'est vraiment comme un gros ordinateur. Puis, dans les 35 000 pièces, là, il y en a 8 qui viennent d'une autre compagnie très connue aussi, en tout cas pour ceux qui suivent ça, TSMC. À Taïwan, qui fabrique donc une partie des composantes de NVIDIA. Alors, c'est une salle de serveur, puis les câbles, toute l'infrastructure autour là, coûte très, très cher aussi à ceux qui opèrent des centres d'infos nuagés comme Amazon. Alors, ils sont en train donc de faire cette migration-là vers des serveurs et des technologies de NVIDIA. Et Amazon, vraiment, est un des pionniers dans ça pour réussir à augmenter sa capacité et à permettre aux gens d'entraîner des modèles. C'est ça que l'intelligence artificielle fait. Présentement, là, on entraîne un peu comme avec Tesla tantôt quand on en parlait. On entraîne la voiture à conduire, à réagir quand on arrive un stop à freiner, une lumière rouge à freiner, ainsi de suite. Donc, présentement, c'est ce qu'on fait. On entraîne, puis on applique. Alors, Jensen Huang, on lui posait la question, comment est-ce que tu vois ça dans le futur? Où ça s'en va, ça, cette intelligence-là, l'évolution? Alors, il dit que en ayant toutes ces données-là captives sur dans des salles de serveurs, on va arrêter d'entraîner et d'appliquer. On va en même temps, ça va être un seul mouvement, si tu veux. On va imaginer, tester, implanter en continu. Un peu comme un humain, finalement. Puis il donnait cet exemple-là, c'est intéressant. Il dit, quand je réfléchis à ce soir, qu'est-ce que je vais faire à 7 heures? Tu sais, j'ai pas à penser à m'entraîner pour aller faire mon activité physique, par exemple. Je ramasse mes affaires, puis je m'en vais. Alors, quand on applique ça à la logique informatique, Et si on a besoin de connaissances, puis on est capable d'aller chercher tout ce qu'il y a sur Internet et pour prendre une bonne décision, pour analyser une donnée, ça change complètement la donne. Alors, comment est-ce qu'on ramène ça à notre portefeuille de placement? Ben, écoute, tous ceux qui ont des salles de serveurs qui veulent utiliser, en premier lieu, ce sont ceux qui utilisent les données, hein, les Meta, les Amazon, Netflix,
les Google, Apple,
Tesla, exact, Visa, tous ceux qui ont des données vont vouloir capitaliser sur ça. Donc, ils ont besoin de ces salles de serveurs-là. Alors, et c'est le deuxième groupe, là, c'est les Google, Amazon, Microsoft qui, eux, ont ces capacités-là, qui achètent des microprocesseurs et qui en fabriquent eux-mêmes. Et puis après ça, bon, tous ceux qui ont des couches, la couche applicative qu'on appelle les logiciels, donc les compagnies pharmaceutiques, toutes les autres compagnies de logiciels peuvent utiliser l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien pour ces grosses compagnies-là qui, à travers le temps, réussissent à prendre le dessus dans le marché puis à tirer le marché comme on l'a vu depuis le début de l'année.
Ah, puis dans le cas d'NVIDIA, là, tu vas voir, on va voir les résultats financiers, mais c'est encore là, c'est du 50% de marge de profit net.
Oui.
C'est pas une bulle, là. C'est pas dans les années 2000, début 2000, la bulle Internet, il n'y avait pas de profit. Là, on a des
profits
de 12-13 milliards par trimestre. Là.
Exact. Jensen donnait un autre exemple encore pour illustrer un peu l'intelligence artificielle qui reste quand même un concept un peu abstrait là, pour les gens. Oui, on utilise ChatGPT, mais il disait, quand on prend une étude, par exemple, d'un chercheur dans un domaine X, par exemple, un PDF, puis on envoie ça dans ChatGPT, puis on lui dit « Résume-moi ce texte-là, puis dis-moi ce que tu as trouvé, l'essentiel de l'étude en question. » Alors, c'est un peu comme si on communiquait, si on parlait directement avec le chercheur qui a produit l'étude. Alors, Jensen, il disait que dans le futur, là, on va pouvoir dire, on va prendre une protéine, par exemple, humaine, puis on va dire, on va mettre ça dans un ChatGPT, c'est une intelligence artificielle pour le pharmaceutique, puis on va dire, écoute, ta protéine, ça sert à quoi? Puis comment est-ce qu'on peut améliorer? Quelle enzyme, par exemple, te stimule? Alors, puis l'intelligence artificielle va sortir cette information-là, et après ça, bien, les chercheurs, les médecins, tout ça, vont être capables de dire, OK, l'intelligence artificielle nous produit telle analyse, on est capable d'appliquer pour résoudre telle maladie, par exemple. Alors, c'est un peu comme
là,
ça
on va aller plus loin. Là,
ah, tout à fait, oui. Et lui, il pense que dans les 10 prochaines années, il va réduire encore le coût énormément de toute cette technologie-là.
Incroyable. Vent de face, économie américaine, élections qui s'en viennent, la bourse. Là, on a le vent de face depuis le début avril, mais à un moment donné, on va peut-être passer à autre chose, là.
Oui, ben, on parle toujours, c'est drôle parce qu'au moment où on enregistre, on a toujours ou presque Powell qui fait une annonce sur le taux les taux d'intérêt
américains. Et ça bouge beaucoup pendant ce temps-là.
Oui, exactement. Alors, on parle beaucoup de macroéconomie, je pense, tous les deux, on aime ça beaucoup, mais on sait que tout bon investisseur qui t'écoute, il ne faut pas qu'il se laisse influencer par la macro. J'ai écouté encore une analyse cette semaine d'un fonds mutuel qui disait, écoute-moi, la macro, je m'en fiche complètement. Ce que je fais, c'est j'investis régulièrement dans des bonnes compagnies, puis c'est sur le long terme.
Exact.
Mais il y a quand même des données, je dis ça, mais d'un autre côté, il y a quand même deux choses que je voulais mentionner à tes auditeurs, que du côté américain toujours, les ménages américains, là, ils ont vidé le bas de laine de ce qu'ils avaient épargné pendant la COVID. On sait que pendant la COVID, on n'a pas dépensé beaucoup, mais les niveaux d'épargne actuels là, sont vraiment rendus les plus bas des 5 dernières années.
Comme au Canada, là, d'ailleurs.
Ouais. Ah, tout à fait, oui. Donc, on suit toujours un peu. Donc, on voit très, très clairement là, que les économies américaines ne sont plus là. Alors, ça, c'est un risque un important quand même, parce que les États-Unis, c'est une économie de consommation. Alors, quand on n'a plus d'argent dans nos poches, mais on consomme un peu moins. Puis, l'autre chose qui est aussi dans cette année électorale-là, c'est la dette, le paiement de la dette sur l'américaine. Alors, qui est aujourd'hui à 1,1 trillion de dollars. Alors, pour mettre les choses un peu en perspective, là, il y a 3 ans, c'était 450 milliards. Et alors, là, on a augmenté de 144. C'est vraiment une courbe là, d'un hockey qui monte.
Ah, c'est exponentiel.
Oui. Alors, donc, depuis 2020, le paiement donc, de la dette américaine a explosé. Bon, on produit toujours des bonds pour couvrir cette dette-là. Donc, on demande encore aux pays puis aux Américains d'acheter tout ça. Mais on peut se poser la question où ça va aller. Est-ce qu'un jour, ça va vraiment ralentir l'économie américaine? Donc, qui carbure à la consommation et qui a toujours un œil sur la dette. Mais dans une année électorale, il y a 4 petites leçons que je voulais donner à tes parce que je me suis fait poser un peu la question aussi, des leçons qu'on a apprises au fil des années électorales sur la bourse américaine. Alors, il y a vraiment une tendance à la hausse, peu importe le parti qui accède à la Maison-Blanche. Hein. Si tu avais mis $1,000 US dans Standard & Poor's 500, l'indice, en 1933, tu serais à 21 millions de dollars en 23. Puis, il y a eu 7 républicains, 8 démocrates qui ont gagné les élections.
Peu importe, donc, là, l'année électorale, c'est quoi? Je ne sais pas si tu as le rendement à peu près moyen, mais...
C'est autour de 9-10%.
Oui, c'est ça, exactement.
Ouais, exactement. Alors, deuxième chose, en général, les marchés connaissent des turbulences pendant les primaires, mais rebondissent par la suite. Donc, les primaires, on est un peu dedans. Là. C'est un peu des primaires
pas très stimulantes. La première partie de l'année, hein, c'est ça.
Oui, exactement. C'est pas très stimulant parce qu'on sait qui va gagner du côté des républicains et des démocrates, bien sûr. Donc, il n'y a pas vraiment de course, mais c'est la période dans laquelle nous sommes. Et généralement, les actions ont rapporté 11,3 $ américains dans les 12% en dollars américains dans les 12 mois qui ont suivi les primaires. Donc, comparativement à
5,7. 11% de rendement après les primaires.
Oui, après les primaires. Comparativement à peu près à 5,7 au cours des périodes comparables sans élection. La troisième leçon que l'histoire nous donne, c'est que les investisseurs deviennent souvent nerveux puis se réfugient en cash dans les années électorales. Mais, puis les marchés monétaires se présentent, on en a parlé aussi, il y a beaucoup d'argent dans les marchés monétaires, alors qui attire le double des actifs pendant les années électorales que pendant une année d'élection. Une année suivant une élection, pardon. Alors, donc, cette quantité d'argent-là va retourner dans le marché éventuellement. C'est ce qui fait, entre autres, monter la bourse par la suite, à la suite d'une élection. Et la dernière leçon, c'est ceux qui restent à l'écart sans mordre les doigts parce que le rendement n'est pas...
Manquer le rebond, ben oui.
Exactement. C'est ça, c'est le temps et non le moment qui compte le plus. Hein. Le Standard & Poor's a été en territoire négatif pendant 2 fois seulement dans les 20 dernières années électorales, en 2000 et 2008, là, qui n'étaient pas des bonnes années. Mais puis dans 2 cas, c'était des grandes parties des bulles spéculatives. C'était pas vraiment un marché normal, disons, entre guillemets. Alors, donc, plutôt que suivre les enjeux politiques, là, c'était des bulles spéculatives. Donc, les années électorales, finalement, on pense que c'est positif d'une certaine façon pour la grande quantité de cash qui revient dans le marché et puis pour l'action là, suivant les primaires américaines.
Voilà. Gain en capital, ça a fait jaser beaucoup, ça, au Québec, mais au Canada aussi.
Oui, je voulais en glisser un mot, Pierre. Peut-être que tu en as parlé déjà un peu. Je suis pas un comptable ni un fiscaliste, là, mais ça touche quand même assez peu de gens. C'est certain qu'on s'est offusqué un peu. Puis moi aussi même, ça me fâchait de vous penser là, qu'un jour, si je vends un immeuble, je vais payer le taux d'inclusion est augmenté. Alors, mais quand on décortique un peu tout ça, on se dit, bon, finalement, ça c'est pas si... Tout dépend de 2 choses, en fait. La clientèle, est-ce que ça, on parle ici toujours de contenants enregistrés, puis on parle de résidences secondaires, de chalets, d'immeubles, et ce taux d'inclusion-là, donc qui passe de 50% à 66,7%
pour le 250 000.
C'est ça, pour un gain de capital excédant 250 000 et plus par année. Alors, si donc on sort seulement 250 000 par année, bien, on a 50% de.
Comme avant.
Comme avant. Alors, c'est vraiment si la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on a besoin de prendre des gains? On a besoin de cash dans nos comptes comptants ou dans nos immeubles si on veut prendre cet argent-là dans les prochains mois. C'est là que la question qu'on peut se poser parce que ça a un effet pervers. Si on va chercher un gros gain de capital sur un placement, par exemple, bien, on sort cet argent-là. Et il n'y a pas de gain superficiel. Hein, à la bourse, on ne peut pas, d'un point de vue comptable, là, remettre l'argent à la bourse quelque chose qu'on vient de vendre. Là, c'est un peu technique tout ça, mais les comptables sont bien au fait de tout ça. Mais dans ce cas-ci, si on sort notre argent pour un gain de capital, éviter un gain de capital, donc il n'est plus à la bourse. Hein. Alors, il y a toujours le calcul qu'on se fait de dire, bon, OK, je vais sauver en impôt avant le 25 juin si je sors mon gain de capital, mais par contre, je vais avoir moins d'argent si je ne le réinvestis pas, bien sûr, qui va rester à la bourse et qui va faire des profits pour les prochaines années, prochains mois. Donc, ce n'est pas des scénarios qui s'appliquent à tout le monde. On parle toujours de contenants enregistrés, mais ceux qui ont des comptes corporatifs, c'est possible aussi là, d'ajouter là, dans le compte de dividendes en capital, là, le fameux CDC. Alors, tout ça, c'est de la job plus de comptable, mais votre conseiller financier peut quand même vous aider à vous éclairer dans ça pour être capable de voir si... Mais si là, votre horizon de placement est long, pas tellement d'inquiétude
à avoir. Pas de panique.
Pas de panique, exactement.
Mais le conseiller financier, il est là justement pour essayer de faire le tour, regarder tout ça. Voilà. Là, il faut le dire, tout ce qu'on a jasé, là, c'est pas des conseils financiers, hein.
Ah, merci Pierre de m'ouvrir la porte à ma célèbre petite phrase. Effectivement, tout ce que je prépare ici, c'est moi qui le fais, c'est en mon nom, donc ça n'inclut pas Valeur Mobilière Peak. C'est toujours des sources fiables et pertinentes que j'essaie d'utiliser. C'est d'ordre général, c'est incomplet par rapport à votre situation personnelle, à tous ceux qui nous écoutent, et ça ne constitue pas des conseils d'investissement et ça n'implique pas Valeur Mobilière Peak et ils ne sont pas responsables du contenu de mes commentaires.
Voilà, mais par contre, si on veut avoir des conseils financiers de Frédéric Turcotte, on peut te joindre
oui. Sur
ton site web, frédéricturcotte.com.
Oui, allez s'inscrire là-bas.
Tu fais du Zoom, hein? Il y a ça
oui,
aussi.
Oui, on fait du Zoom, puis on se rencontre sinon en personne. Alors, je suis basé à Québec, mais j'ai beaucoup de clients à Montréal, donc c'est possible aussi de se rencontrer à Montréal. Et puis voilà, je donne des avis sur les portefeuilles, je rassure des gens qui souvent, c'est drôle, la plupart des gens que je rencontre très souvent, ils me disent « Ah, écoute-moi, mon conseiller, il change à tous les 6 mois ou 8 mois. »
Ben, c'est alors, le cas dans plusieurs, je pense que c'est Desjardins,
oui,
là.
Écoute,
c'est une balade de conseiller annuel. C'est important d'avoir quelqu'un fiable et, tu sais, comme toi, là, quand quelqu'un, il veut être…
Ben, je suis là encore pour au moins 15 ans, donc c'est quand même possible. Puis mon fils travaille avec moi à partir de la semaine prochaine avec ma conjointe aussi. Donc, on est là pour plusieurs années encore.
Vous êtes une équipe en plus.
Une équipe, exactement. Donc, on peut apporter beaucoup de valeur à votre vie financière, et puis que ce soit au niveau du placement comme tel, mais aussi au niveau de la planification financière. Là, donc, de projeter vers la retraite, qu'est-ce que ça peut donner? Alors, c'est des services que l'on donne.
Voilà, Frédéric Turcotte, merci beaucoup. On se reparle.
Avec plaisir, Pierre. À bientôt.
Salut. Bye-bye.